Petite vie de Charles de Foucault par René Bazin de l'Académie française. Avant-propos. Ce livre est formé des éléments essentiels de l'ouvrage de mon père intitulé « Charles de Foucault, explorateur du Maroc, ermite au Sahara », publié en 1921 et dont 135 éditions de 1000 volumes n'ont pas épuisé le succès. Les ouvrages ultérieurs consacrés à ce chevalier du Christ et de la France ont fait connaître de très belles lettres qu'il écrivait à ses amis ou que ses amis écrivirent à son sujet. Ils n'ont pas ajouté de lignes ni de teintes nouvelles au portrait saisissant que René Bazin en a tracé avec un pur respect et en s'effaçant complètement devant son modèle. Je souhaite que le récit qu'on va lire, si bref qu'il soit, donne une idée fidèle de cette magnifique figure de chrétien et de français. Je forme le vœu aussi qu'on reconnaisse dans cette vie l'action manifeste de la grâce divine sur cette âme, à dater du jour où elle s'est ouverte pour en accepter en toute simplicité le don merveilleux. Nicolas René Bazin, 1877-1940. Préface du cardinal Claude Poupart. C'est pour moi une joie profonde de présenter la réédition de l'ouvrage de Nicolas René Bazin, le père de Foucault, publié en 1937. Ce livre est formé des éléments essentiels de l'ouvrage de son père, l'académicien Angevin, publié en 1921. René Bazin, mon compatriote, esquisse magnifiquement la biographie de Charles de Foucault, explorateur du Maroc, ermite au Sahara. J'en garde précieusement dans ma bibliothèque l'exemplaire jauni qui m'a toujours accompagné de mon Anjou natal à Rome, où le bienheureux pape Jean XXIII m'appelait comme son jeune collaborateur à la secrétaire d'État, puis à l'Institut catholique de Paris au cours de mes 10 années de rectorat, et enfin à nouveau à Rome, où je reçois encore, à la relecture de ces pages lumineuses au style incomparable, une source d'inspiration dans ma mission de président du Conseil pontifical de la culture. Cet ouvrage remarquable m'a donné, voici bien un demi-siècle, de découvrir et d'aimer Charles de Foucault. Aussi c'est avec gratitude que j'écris ces quelques lignes en avant-propos de la réédition de l'essentiel de cette magnifique biographie de René Bazin, ce Fra Angelico des lettres au regard de François Mauriac. Et je remercie les éditions Via Romana de me permettre ainsi de lui exprimer ma reconnaissance. La vie de Charles de Foucault ressemble à un long itinéraire qui le conduit par des routes successives de l'ensablement à la lumière. Enfant, il reçoit de sa dévote mère, hélas trop vite rappelée à Dieu, une première éducation toute pieuse où les agenouillements, le fleurissement des autels et des calvaires, les visites aux églises ou aux autres chapelles et oratoires contribuent à ouvrir son âme passionnée et à imprimer en elle la marque discrète de la grâce. Charles, orphelin de père et mère en quelques mois, il n'a que 6 ans, est confié avec sa sœur Marie à leur grand-père maternel. Ce dernier aime profondément le petit Charles, mais il ne sait corriger, comme le ferait une mère, certains défauts de son caractère et une violence colérique qui le rend redoutable. La triste guerre les chasse de Strasbourg pour Nancy, et c'est au lycée de cette ville qu'il perd bientôt la foi, en même temps que l'habitude du travail soigné et régulier. C'est le début d'un long ensablement dont il gardera toujours avec amertume le souvenir. En cela, il ressemble à Augustin, dont j'aime relire les pages dramatiques des Confessions, où il exprime de manière saisissante le vide d'une âme qui s'enlise lorsqu'elle perd la lumière. Charles confessera le haut degré d'égarement que provoque cet engourdissement de l'esprit dans la paresse, la curiosité sensuelle, la vanité et même le désir du mal. Ce sont 13 années de sa vie où il erre sur des chemins contradictoires qui ne mènent nulle part. Non que la foi ait totalement disparu, il en garde quelques nostalgies, mais il la maintient dans un lointain, hors de sa vue, avec la ferme intention de n'y plus revenir. Combien de jeunes aujourd'hui connaissent cette crise, plus ou moins violente, parfois moins radicale, mais toujours aussi blessante pour des cœurs sensibles qui demeurent assoiffés de beauté, d'amour et de vérité. René Bazin nous dit que Charles de Foucault avait toujours gardé deux sentiments profonds que certains aujourd'hui s'emploient à détruire. Le respect du prêtre et l'attachement à la famille. Il éprouve de l'admiration pour ces maîtres jésuites qui savent rendre raison de leurs croyances alors qu'il ne réussit pas lui-même à trouver les réponses pertinentes à toutes les objections qui le tourmentent. Il entre à Saint-Cyr, en sort sans gloire, pour rejoindre l'école de cavalerie de Saumur et le 4e hussard. Son itinéraire soudain amorce un virage avec l'envoi de ce régiment en Algérie. Il est lieutenant et une nouvelle passion l'envahit. C'est celle de l'Afrique à laquelle tant ont succombé. À cette époque, il nous faut le comprendre et l'accepter sans anachronisme, l'Afrique est une passion coloniale à laquelle est lié le généreux sentiment d'apporter aux démunis les bienfaits de la civilisation. L'éducation qui règle les comportements et ajoute quelques raffinements aux rapports entre les hommes, l'accès à la culture qui élargit considérablement les horizons quotidiens, l'élévation de l'esprit qui naît de la contemplation des arts, le bienfait de la santé et des techniques qui transforment la vie quotidienne et réduisent notablement les cauchemars du quotidien dont sont le plus souvent victimes les femmes et les enfants. Cette route brusquement s'arrête et c'est lui-même qui fait obstacle. Il vit avec une maîtresse venue de France et lorsque lui est signifiée l'impossibilité de continuer cette liaison scandaleuse, il refuse de plier et se retire à Évian. Ce n'est qu'une parenthèse sur son itinéraire car la nouvelle lui parvient de l'insurrection de Bou Amana. Il ne peut supporter l'idée de laisser ses camarades se battre sans lui. Pour René Bazin, c'est l'idée de sacrifice, cette force intérieure qui fait les chrétiens, qui alors commande son âme. Sacrifice du Christ en croix, sacrifice de tant d'hommes et de femmes qui, à la suite des apôtres, ont tout laissé pour le suivre. Sacrifice des martyrs qui ont baigné la terre de leur sang en témoignage d'un amour suprême, dans une volonté inflexible de rester fidèle à ce Dieu qui nous a tant aimés et qui continue de nous envelopper de sa miséricorde et de sa tendresse. Je pense aux innombrables martyrs du siècle qui viennent s'achever, à Edith Stein et au père Kolbe, et à tant d'autres chrétiens qui ont versé le témoignage du sang pour le Christ sur la terre d'Afrique, en Asie ou sur le sol de l'Amérique latine. Je pense surtout à la ville éternelle où j'aperçois du balcon de ma demeure tant de clochers qui rappelle que la chrétienté est née dans le sang, celui de l'amour versé sur la croix, auquel se mêle celui des premiers martyrs chrétiens. Le Colisée en est le symbole, comme l'admirable basilique de Saint Praxède, dont je suis l'heureux titulaire comme cardinal de la Sainte Église romaine, et dont la crypte abrite les ossements de quelques 1500 martyrs, dont la jeune Praxède recueillait les restes au péril de sa vie. Certes, Charles est prêt au sacrifice, non au martyr, mais c'est la noblesse du sentiment qui vient le réveiller brutalement de sa torpeur et de l'engourdissement voluptueux des sens. Il se révèle excellent soldat. Dévoué pour ses hommes, il sait se faire aimer. Mais l'étonnant, c'est qu'au lieu de traiter l'ennemi par le mépris, le rejet et la haine, il en retient une fascination telle qu'il donne sa démission et s'en va à Alger préparer un voyage pour le Maroc. De ces peuplades arabes, il veut comprendre la culture. La leçon est belle. il ne va pas en dilettante comme ces modernes marées de touristes argentés qui déferlent sur les sites du monde à la recherche d'émotions et d'esthétisme, et sont rarement capables d'en percevoir le message culturel et humain. Il étudie l'arabe, s'enferme en bibliothèque et s'informe auprès des spécialistes. C'est la préparation avant le dialogue, car les rencontres culturelles en sont profitables uniquement dans l'échange qu'elles permettent. Il doit se dépouiller des manifestations extérieures de sa culture chrétienne pour cheminer en terre d'islam sans être inquiété. Il se fera passer pour un juif, et comme le déguisement ne suffit pas pour convaincre, il en apprend la langue, l'hébreu et les coutumes. C'est ainsi que le nouvel explorateur, enfin prêt pour sa reconnaissance au Maroc, part en voyage sur un chemin semé d'embûches où sa ténacité à poursuivre la route est fortement mise à l'épreuve au péril même de sa vie. Que restera-t-il de ce voyage ? Une amitié quelque peu mystérieuse pour les peuplades marocaines ? Ce sentiment étrange qui vous prend et ne vous quitte plus, où la reconnaissance se mêle à la compassion et qui tenaille les missionnaires plus fort que l'appel de leur contrée natale. Peut-être aussi une marque profonde qui fera plus tard son travail en l'âme de Charles. Seul, au milieu du désert, avec ses fils de l'islam à entendre s'élever le chant de la prière et l'invocation perpétuelle à Dieu dans toutes les conversations. À voir, 5 fois par jour, les hommes se prosterner sur le sable vers l'Orient, l'explorateur éprouve de l'admiration et reconnaît la grandeur de la foi. De retour dans sa famille, il est ému par l'attention délicate de ses proches et le témoignage joyeux d'une charité vécue dans l'humble quotidien, à travers les gestes simples et les attitudes cordiales qui remplissent les journées qui passent. C'est le témoignage chrétien des familles qui se sont fait une culture de l'Évangile. Le respect délicat de ses proches ne le force pas. Puis vient la rencontre avec un humble prêtre à l'intelligence lumineuse, l'abbé Huvelin, homme de prière au cœur sensible et doux. La sainteté du prêtre, qui ne cherche pas à briller en société, mais porte sur lui la souffrance de ceux qui la lui confient, le fait reconnaître comme celui à qui il peut aller avec confiance demander la lumière, ouvrir les plaies de l'âme pour y retrouver la paix et une douce joie discrète. Sans le savoir, l'abbé déclenche une tempête semblable à celle du désert, ces vents de sable aussi soudains que redoutables qui vous fouettent violemment le visage et effacent autour de vous tout repère et toute trace sur le sable brûlant. Quand la tourmente s'arrête, vous vous retrouvez seul face à la lumière, ébloui et assoiffé. Et il vous faut tracer une nouvelle route à la recherche de l'oasis qui cache la source vive. Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître. C'est le cri de sa prière. Il va à la rencontre de l'abbé Huvelin, entre dans le confessionnal, cette maternité de l'âme, et lui dit « Je n'ai pas la foi ». Je viens vous demander de m'instruire. La réponse est aussi inattendue qu'abrupte. Mettez-vous à genoux, confessez-vous, vous croirez. Qui saura dire ce que les hommes et les femmes doivent depuis 2000 millénaires de vie chrétienne au sacrement de pénitence et de réconciliation? C'est un chemin de vie qui s'ouvre définitivement pour Charles. La première étape est la Terre Sainte, où il va comme à une source. Il s'y attarde, car il a soif de connaître les lieux qui parlent par eux-mêmes, de Bethléem à Cana, du Mont des Béatitudes au Tabor, Jérusalem, la Ville Sainte, Gethsémani et le lieu du crâne. Il s'attarde à Nazareth comme au lieu du Cénacle, car la vie cachée de la Sainte Famille, comme celle des premiers chrétiens réunis secrètement autour de la Vierge, l'inspire et devient son modèle. Notre Seigneur a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. Par-delà ses futurs voyages, c'est la destination principale qui deviendra désormais la sienne. prendre place au plus près de Jésus de Nazareth, parmi les derniers, dût-il être caché et inutile dans l'immensité du désert. Les pages profondes et belles qui suivent retracent avec bonheur cet itinéraire de solitude. Elles viennent redonner fraîcheur et paix à nos âmes qui peinent tant parfois à se frayer un chemin de lumière dans un monde de rumeurs qui s'agite et nous fatigue. C'est dire combien je me réjouis de la réédition de ce livre. Je sais qu'il peut aider. En ce nouveau millénaire encore, bien des chrétiens déboussolés sur les chemins d'une culture où se perdent les repères de l'Évangile. La grande révélation chrétienne, c'est que le Verbe de Dieu s'est fait chair. C'est que Dieu est venu habiter parmi nous et qu'il est venu en nous pour y faire sa demeure. La plénitude de vie que nous donne la foi en l'Évangile, c'est une plénitude intérieure qui se réalise en nos âmes par le don de l'Esprit. Charles de Foucault a ouvert et déployé toute grande les ailes de l'Esprit à l'action transformante de la grâce. Et ce souffle divin l'a conduit au désert. D'abord à celui de la trappe, puis au sein de la silencieuse nature, dans son petit ermitage du Haut-Gard, sur ce magnifique pic rocheux où s'offre une vue fascinante sur un relief doré. L'absence de tout bruit laisse toute sa place à la présence intérieure du Créateur et Rédempteur de nos âmes. Au terme, disais-je, voici plus de 20 ans, à Saint-Barthélemy d'Anjou, pour le 60e anniversaire de sa mort, rien n'est plus, aux yeux du lecteur de René Bazin, premier et incomparable historien du père de Foucault, que du sable à l'infini. Un homme dépouillé de tout, une petite hostie, une splendeur de foi, de renoncement et d'amour. Charles de Foucault est pour nous une invitation à redécouvrir le silence si nécessaire à la foi chrétienne. Beaucoup de pèlerins partent aujourd'hui dans les déserts que les avions rapprochent des portes de nos métropoles. C'est qu'ils y retrouvent ce que notre civilisation a perdu. La capacité de remettre en perspective l'essentiel d'une vie et de donner le recul dont nous avons besoin pour faire parmi tant de chemins qui ne mènent nulle part le choix d'une route de salut. La spiritualité de Charles de Foucault nous parle en ce nouveau millénaire. Avançons au large des dunes et des horizons, sans céder au mirage. Cheminons sur les chemins arides de la vie vers le puits de la grâce pour y tancher les soifs qui nous tenaillent au plus profond de l'âme. Charles de Foucault y sera notre compagnon de caravane. À Rome, le 16 mars 2016, cardinal Paul Poupart, président émérite du Conseil pontifical de la culture et du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Chapitre 1er, la jeunesse. Charles de Foucault, né à Strasbourg le 15 septembre 1858, appartenait à une très ancienne famille périgourdine établie en Alsace-Lorraine depuis près d'un siècle, alliée aux meilleures familles de ce pays. Son père, le vicomte de Foucault de Pontbriand, sous-inspecteur des forêts, et sa mère, née Élisabeth de Morlaix, moururent dès 1864, à 4 mois de distance, laissant 2 enfants, Charles et Marie. Leur éducation fut confiée à Monsieur Charles de Morlaix, leur grand-père, qui avait à cette date près de 70 ans. Charles, qui était affectueux, ardent, studieux, fut assez gâté dans sa première enfance par ce grand-père auquel manquait l'application passionnée des parents au devoir de l'éducation première et le don de divination qui permet aux mères de s'alarmer des défauts de l'enfant et de les corriger. les colères de Charles rencontraient une indulgence secrète et passaient pour un signe de caractère. Il était violent. La plus innocente moquerie le mettait en fureur. Un jour qu'il avait dans un tas de sable taillé et modelé un fort, toute une architecture de fossés et de tours, quelqu'un de ses proches, pensant lui être agréable, s'avisa de mettre sur le sommet des bougies allumées et dans les fossés des pommes de terre en guise de boulet. Charles, supposant qu'on se moquait de lui, entra en grande colère, piétina son œuvre, puis la nuit venue, pour se venger, jeta dans tous les lits de la maison les pommes de terre bien roulées dans le sable. Jusqu'à la guerre de 1870, Charles fut élevé à l'école épiscopale de Saint-Arbogast, dirigée par les prêtres du diocèse de Strasbourg, puis au lycée de cette ville. La guerre survint et chassa d'Alsace le grand-père et les deux enfants qui se réfugièrent à Berne pour venir en 1870 habiter Nancy. C'est au lycée de cette ville que Charles, qui avait 14 ans, commença de prendre l'habitude du travail régulier. « Si je travaillais un peu à Nancy, écrira-t-il plus tard, c'est qu'on me laissait mêler à mes études une foule de lectures qui m'ont donné le goût de l'étude, mais m'ont fait le mal que vous savez. » Il écrira encore, en effet, que c'est pendant sa rhétorique qu'il a perdu toute foi, et ce n'était pas le seul mal. L'année de philosophie fut pire. « Si vous saviez combien toutes les objections qui m'ont tourmenté, qui écartent les jeunes gens, sont lumineusement et simplement résolues dans une bonne philosophie chrétienne. Il y a eu pour moi une vraie révolution quand j'ai vu cela. Mais on jette les enfants dans le monde sans leur donner les armes indispensables pour combattre les ennemis qu'ils trouvent en eux et hors d'eux et qui les attendent en foule à l'entrée de la jeunesse. Les philosophes chrétiens ont résolu depuis si longtemps, si clairement, tant de questions que chaque jeune homme se pose fiévreusement sans se douter que la réponse existe, lumineuse et limpide, à deux pas de lui. » Fin de citation. Plus tard encore, dans une lettre à son beau-frère, il demandera instamment que ses neveux soient élevés par des maîtres chrétiens. Je cite « Je n'ai eu aucun maître mauvais, tous au contraire étaient très respectueux, mais ceux-là font du mal en ce qu'ils sont neutres, et que la jeunesse a besoin d'être instruite non par des neutres, mais par des âmes croyantes et saintes, et en outre par des hommes savants dans les choses religieuses, sachant rendre raison de leurs croyances et inspirant aux jeunes gens une ferme confiance dans la vérité de leur foi. Que mon expérience suffise à la famille, je vous en supplie. » Fin de citation. Ce collégien sorti du lycée Bachelier, comme les autres, curieux de tout, décidé de jouir, est triste. Il se décida à préparer l'examen de Saint-Cyr et partit pour suivre à Paris les cours de l'école Sainte-Geneviève. Lui-même, il s'est peint de souvenirs tels qu'il était à cette époque. Je cite « À 17 ans, je commençais ma deuxième année de rue des Postes. Jamais je crois n'avoir été dans un si lamentable état d'esprit. J'ai, d'une certaine manière, fait plus de mal en d'autres temps, mais quelques biens avaient poussé alors à côté du mal. À 17 ans, j'étais tout égoïsme, toute vanité, toute impiété, tout désir du mal. J'étais tout affolé. Quant au degré de paresse, à la rue des Postes, il a été tel qu'on ne m'y a pas gardé. Et que je vous ai dit que j'avais regardé, malgré les formes mises pour ne pas affliger mon grand-père, mon départ comme un renvoi, renvoi dont la paresse n'était pas la seule cause. J'ai été si libre, si jeune. À 17 ans, j'ai tant fait souffrir mon pauvre grand-père, refusant le travail au point qu'au mois de février, je crois, je n'avais pas encore coupé la géométrie dans laquelle je devais étudier chaque jour depuis novembre. Lui écrivant à peu près tous les deux jours et quelquefois des lettres de 40 pages pour lui demander de me rappeler à Nancy et tout le reste que vous pouvez deviner et qui résulte d'un tel affolement. » Fin de citation. De foi, il n'en restait pas trace dans mon âme. Fin de citation. Ailleurs, il dira et répétera que pendant 13 années, il n'a pas cru en Dieu. Il ajoutera toutefois que même au temps où il avait le moins de respect pour la religion, il conservait une très profonde estime pour ses maîtres religieux. Quand l'heure du retour sera venue, Charles de Foucault n'aura donc pas peur du prêtre. Il ira avec confiance à l'un d'eux. Admis au concours de l'école militaire en 1876, l'un des derniers de la promotion, il ne gagne pas de rang au cours de ses 2 années d'école. Le général Lapérine, qui fut son ami, a écrit dans un récit qu'il intitulait « Les étapes de la conversion d'un housard » ces lignes pleines de signification et de réserve à la fois. Je cite « Bien malin celui qui aurait deviné dans ce jeune Saint-Cyrien gourmand et sceptique l'ascète et l'apôtre d'aujourd'hui. Lettré et artiste, il employait les loisirs que lui laissaient les exercices militaires à flâner le crayon à la main ou à se plonger dans la lecture des auteurs latins et grecs. Quant à ses théories et à ses cours, il ne les regardait même pas, s'en remettant à sa bonne étoile pour ne pas être séché. » Fin de citation. Les photographies de cette époque représentent, au-dessus d'un buste et d'un cou trop épais, un visage rond, empâté et sans style, et qui n'a de beau que le front, droit et large, et la ligne à peine courbée des sourcils. Enfoncés dans l'orbite, les yeux brillants et peu commodes ont été rapetissés par la graisse qui les presse. Quant aux lèvres, peu formées, indolentes, elles sont de celles qui goûtent, parlent peu et ne commandent pas. La chair domine. Comment cette figure deviendra-t-elle un jour, par l'énergie tendue de tous les traits, par la splendeur des yeux et de la charité céleste du sourire, presque semblable à celle de saint François d'Assise? C'est le miracle de l'âme qui sculpte la carcasse et met sa signature. De Saint-Cyr, où il a eu comme professeur les futurs généraux Dubail et Belin, comme anciens ou comme camarades Pétain, Drian, Gérard, Sarail, Mazel, Durbal, Miribel et Vallombrosa, marquis de Morès, Foucault passa en octobre 1878 à l'école de cavalerie de Saumur, où il vécut, suivant le mot de son ami le duc de Fitz-James, je cite, « une existence de doux philosophe épicurien ». Fin de citation. Ses notes militaires sont loin d'être flatteuses. Manière de servir médiocre, intelligent mais insouciant, esprit peu militaire, distingué mais de tête légère, on ne pense qu'à s'amuser. On riait au surplus de ses frasques et de ses travers. Il s'habillait avec une recherche extrême, ne fumait que des cigares d'une certaine marque, n'acceptait jamais qu'un garçon de café ou un cocher lui rendît la monnaie d'un louis, jouait gros jeu et dépensait si follement que son oncle, Monsieur Moitessier, devait bientôt, à la grande fureur de Charles, le pourvoir d'un conseil judiciaire. On devine d'ailleurs que les hôteliers, les tailleurs, les marchands de Pontécané et de Corton n'étaient pas les seuls qui s'entendissent à faire des brèches dans la fortune de ce jeune grand seigneur. La vie qu'il mena à Pont-à-Mousson au sortir de l'école de cavalerie ne fut pas plus rangée. Son conseil judiciaire laissait à sa disposition une rente importante. Il menait la vie à grande guide, faisant participer à des plaisirs variés dont les plus raffinés paraissent être ceux de la table, de nombreux camarades et des compagnes aimables souvent renouvelées. Ses notes militaires, cependant, sans être tout à fait satisfaisantes en ce qui concerne sa façon de servir, marquaient de l'estime pour son intelligence et son jugement. Enfin, 1880, le 4e hussard devenait le 4e chasseur d'Afrique et avait l'ordre de se rendre à Beaune et à Sétif. Un incident fâcheux, du reste amusant dans les détails, eut alors une influence sérieuse sur la vie de Charles de Foucault. Une femme aimable, mais qui n'était pas du monde, et qui revenait retrouver à Sétif notre sous-lieutenant, se fit passer à son débarquement pour sa femme légitime auprès de certains personnages officiels qui s'y méprirent. Charles de Foucauld fut prié de faire cesser le malentendu en réembarquant sa conquête pour la France. Il prit très mal les avis, puis l'ordre de son colonel. Les propos échangés, le refus absolu opposé par le lieutenant à son chef, blessaient la discipline. La volonté de Charles de Foucauld, terrible et sans maître encore, refusait de plier. L'inévitable survint, rapport au ministre de la guerre et mise en non-activité du jeune officier, par retrait d'emploi pour indiscipline et inconduite au printemps 1881. Cette date apparaît capitale dans la vie de Charles de Foucauld, non pas tant à cause de cette césure dans sa vie qu'en raison de ce qu'elle coïncide avec le premier sursaut de sa conscience. Il se produit à la nouvelle de l'insurrection du marabout Bou Amana, qui agitait les tribus et prêchait la guerre sainte dans le sud oranais. Son ancien régiment allait se battre. Foucauld ne put supporter la pensée que ses camarades seraient à l'honneur et au danger, tandis que lui-même, il n'y serait pas. Pour rejoindre son régiment, il accepterait toutes les conditions qu'on lui imposerait. La demande qu'il fit dans ce sens fut accordée. Son ami Lapérine, qui était de l'expédition et dont la vie coloniale allait se mêler curieusement à celle de Charles de Foucauld, écrivit à son sujet. Je cite. Au milieu des dangers et des privations des colonnes expéditionnaires, ce lettré, fêtard, se révéla un soldat et un chef. Supportant gaiement les plus dures épreuves, payant constamment de sa personne, s'occupant au dévouement de ses hommes, il faisait l'admiration des vieux Mexicains du régiment, des connaisseurs. Du Foucauld de Saumur et de Pont-à-Mousson, il ne restait plus qu'une mignonne édition d'Aristophane qui ne le quittait pas, et un tout petit reste de snobisme qui l'amena à ne plus fumer le jour où il ne lui fut plus possible de se procurer des cigares de sa marque préférée. Un des anciens soldats qui ont poursuivi Bou Amana me racontait qu'un jour, après une grande étape, le lieutenant de Foucauld, voyant que les hommes épuisés de chaleur allaient se précipiter vers le puits, se porta rapidement en arrière, acheta à la cantinière une bouteille de rhum et revint en disant, je cite, « Ce que je suis content de l'avoir, ma bouteille, pour vous la donner. » Et les soldats mêlèrent un peu de rhum à l'eau saumâtre du puits. Il savait se faire aimer celui-là, ajoutait le narrateur, mais c'est qu'il aimait aussi le troupier. Fin de citation. C'est à partir de cette époque, celle de sa 24e année, que pour une autre raison aussi se dessine l'orientation nouvelle de la vie de Foucauld. Ce premier contact avec les Arabes lui cause avec un certain étonnement le désir de les étudier. En outre, une vocation naît en lui, celle d'habiter l'Orient, vocation dont l'origine n'est pas, comme certains cela l'imaginent, l'amour de la lumière, mais bien plutôt l'amour du silence habituel, de l'espace, de l'imprévu et du primitif de la vie. Du mystère également qu'on devine dans des âmes très fermées. Quant à cette vocation qui parle et commande dans un cœur d'homme, il n'y a qu'à la suivre. Ayant donc demandé un congé pour faire un voyage dans le sud et se l'étant vu refuser, le lieutenant de Foucauld donne sa démission, s'installe à Alger et se décide à tenter une des choses les plus difficiles qui fussent, explorer le Maroc, pays fermé, défiant de l'étranger, cruel dans ses vengeances, mais si voisin de nos côtes, si manifestement destiné à compléter notre domaine, qu'on était sûr, en le parcourant, d'aider la France de demain. Il apprend l'arabe, il s'enferme dans les bibliothèques et se lie avec Omar McCarthy, cet arabisant dont Eugène Fromentin disait dans « Un été dans le Sahel » que la terre africaine était la propriété de son esprit. Dans le corps frêle de ce savant vivait une âme intrépide, guide sûr, mais dont la méthode d'exploration avait toujours été très personnelle. On pouvait deviner ce qu'il conseillerait au jeune officier qui se mettait à son école. Car devenu comme insensible au froid et au chaud, il avait voyagé sans escorte, sans bagage, ses poches bourrées seulement de carnets et de cartes manuscrites, insouciant de toutes les commodités de la vie matérielle, protégé par son dénuement même selon le proverbe oriental qui dit « 1000 cavaliers ne sauraient dépouiller un homme nu ». Oscar McCarthy était conservateur de la bibliothèque installée dans le palais de Mustapha Pacha, rue de l'État-major. Tous deux accoudés à la balustrade de la cour mauresque, le vieux savant et le jeune officier passaient de longues heures penchés sur les cartes anciennes et les poudreux in-folio, feuilletant les ouvrages des anciens géographes que Foucault devait laisser loin derrière lui. Une des plus importantes questions à résoudre pour le succès d'un voyage au Maroc était le choix du déguisement. Deux costumes seulement pouvaient permettre de passer au milieu des tribus, d'être accueilli dans les villages où nul Européen n'avait mis le pied, de converser avec les Marocains. Le costume arabe et le costume juif, commerçant toléré et surveillé. Foucault choisit le second. Je cite « Je jetais les yeux, écrit-il, dans l'avant-propos de sa renaissance au Maroc, sur le costume israélite. Il me sembla que ce dernier, en m'abaissant, me ferait passer plus inaperçu, me donnerait plus de liberté. Je ne me trompais pas. Pendant les séjours, il m'était facile, à l'ombre des mellahs, de faire mes observations astronomiques et d'écrire des nuits entières pour compléter mes notes. Dans les marches, nul ne faisait attention au pauvre juif qui, pendant ce temps, consultait sa boussole, montre, baromètre, relevait le chemin suivi, obtenait des juifs du Maroc des renseignements sincères et détaillés. Mon travestissement était d'ailleurs complété par la présence à mes côtés d'un juif authentique. » Fin de citation. Ce compagnon, ce fut le rabbin Mardoché Abisserour, né vers 1830 au sud du Maroc, dans l'oasis d'Aka, habitant une vieille maison du quartier juif d'Alger, et que Foucault décida, le 10 juin 1883, à lui servir de guide dans son audacieuse équipée à travers le Maroc, alors inconnu. Chapitre 2, le voyage au Maroc. Les voyageurs sont habillés d'une longue chemise à manches flottantes, d'un pantalon de toile s'arrêtant aux genoux, d'un gilet turc de drap foncé, d'une robe blanche à manches courtes et capuchon, coiffés d'une calotte rouge et d'un turban de soie noire. Charles de Foucault, qui s'appelle provisoirement le rabbin Joseph Alléman, et Mardoché, qui a conservé son nom, se dirigent d'abord vers Tlemcen, où ils recherchent auprès des juifs du Rif le moyen de pénétrer au Maroc par la frontière algéro-marocaine. Voici le récit pittoresque de Foucault. Ils viendront nous trouver à 8 heures du soir dans une chambre que nous louons. Dans cette pièce de 2 mètres de large sur 5 mètres de long, dont les murs, le sol et le plafond sont peints en gris, ont été placés sur un escabeau une bougie, une bouteille d'anisette et un verre. Les uns après les autres, une dizaine de juifs, la plupart à barbe blanche, entrent discrètement, et nous voici tous assis par terre en cercle autour de la bougie. Mardoché remplit le verre d'anisette, l'élève, et dit « À la santé de la loi, à la santé d'Israël, à la santé de Jérusalem, à la santé du pays saint, à la santé de Sbaot, à vos santés à tous, ô docteur, à ta santé, rabbin Joseph, moi. » Il trempe ses lèvres dans le verre et le passe à son voisin qui le vide, puis le verre fait le tour et chacun des juifs le vide d'un trait. Mardoché prend la parole. Il raconte son histoire et la termine par ce trait entièrement inventé. Mardoché a eu, voici 2 ans passés, une discussion avec le frère de sa femme et le jeune homme a quitté Alger et on ne l'a plus revu. Depuis lors, la femme de Mardoché est inconsolable, elle ne fait que pleurer. Or, il y a quelques jours, on lui a dit que son frère était allé dans le Rif, exerçant le métier de bijoutier sans pouvoir préciser en quelle ville. Aussitôt, elle a supplié son mari d'aller à la recherche du fugitif, et lui, bon époux, pour rendre le repos et la santé à sa femme, s'est décidé à ce voyage. Il est donc résolu à explorer le Rif, village par village, s'il le faut, pour retrouver son beau-frère. C'est ce qui l'amène aujourd'hui à Tlemcen. Pour ce jeune Israélite qui l'accompagne et que l'on entend nommer rabbin Joseph, c'est un pauvre rabbin moscovite qui se rend au Maroc pays des juifs pieux, pour quêter des aumônes. Mardochée l'emmenait avec lui et a payé son voyage jusqu'à Nemours, par pure pitié. Maintenant, il supplie ses docteurs, qui tous ont habité le Rif, de recueillir leurs souvenirs et de lui apprendre s'ils n'ont point connu celui qu'il cherche, un Israélite blond et pâle, âgé de 22 ans, nommé Judas Safertani. Quel présent ne fera-t-il pas à celui qui dira où il se trouve? Les assistants réfléchissent, cherchent, discutent, mais en vain. Aucun d'eux ne connaît Judas Safertani. Mardochée soupire, elle est prise de lui donner au moins des renseignements sur le Rif. Par où y pénètre-t-on? Comment y voyage-t-on? En quel lieu y a-t-il des Juifs? Quels sont les hommes influents du pays? La conversation reprend sur ce sujet. L'anisette l'anime. De nouvelles bouteilles remplacent la première. Le verre fait nombre de fois le tour du cercle. On parle très haut et la discussion devient vive sur les meilleurs moyens de parcourir le Rif. Quand nos cousins se retirent, il est convenu que nous partirons le lendemain pour l'Ala Marnia. De là, nous gagnerons Nemours, d'où nous entrerons, s'il plaît à Dieu, dans le Rif. Ses efforts et ses feintes ne devaient pas réussir, et Foucault se décida à pénétrer dans le Rif par la côte nord-marocaine. Instruit par l'expérience, il modifia aussi son costume, adoptant la calotte noire, le mouchoir bleu, les babouches noires et les mèches de cheveux tombant des tempes aux épaules des Juifs marocains. Il acheta deux mules et, couchant à la Belle Étoile ou sous les abris fournis par l'hospitalité juive ou musulmane dans les lieux habités, pénétra au Maroc par Tétouan et Chechaouenne. Le récit de son voyage, Reconnaissance au Maroc, est une œuvre quelquefois pittoresque, avant tout géographique, militaire et politique. Foucault est déjà celui qui prépare. Ce caractère marquera toute sa vie. On verra que plus tard, tous ses efforts, tous ses sacrifices jusqu'au dernier ne tiendront qu'à rendre possible pour les missionnaires qui viendront la prédication de l'Évangile. Il deviendra religieusement aussi le précurseur, le fourrier, l'homme de pointe. Dès le début du voyage, 10 jours après qu'il a quitté Tanger, l'explorateur est en plein inconnu. Dans cette petite ville de Chechaouenne, un seul chrétien est entré. Un Espagnol, vers 1864, il n'était pas revenu. C'est du reste l'inconnu que cherche Foucault. Les régions défendues sauvages ont toutes ses préférences. D'un point relevé sur les cartes à un autre point également déterminé, il tâchera tout au moins d'aller par une route où personne n'a passé. Faut-il attendre? Il attendra. Payer plus cher les guides? Il payera. Le danger, il ne s'en occupe jamais. Je crois sur la foi de plusieurs hommes intimement liés avec lui, que le sentiment de la peur lui était étranger. On se rendra compte des difficultés rencontrées par les extraits suivants d'une lettre qu'il écrivit le 14 août 1883 à son ami Georges de la Touche. Je cite « J'ai voulu toujours passer par les chemins les moins connus, et il faut parfois longtemps pour trouver le moyen de les parcourir. De Fès, j'ai voulu aller à Tadla, mais le shérif influent qui connaît les tribus que nous traversons ne consent à partir qu'après les fêtes qui terminent le ramadan. En attendant, j'ai été de Fès à Taza, où je suis resté une 8aine de jours faute de trouver avec qui en sortir en sûreté. La position de la ville était connue, mais les chemins qui y aboutissaient n'avaient pas été relevés. Je l'ai fait aussi exactement que possible. Ce qui coûte cher, c'est de marcher. Veut-on aller d'un point à un autre, voici ce qu'on fait. On va trouver un notable de l'endroit qu'on sait pouvoir vous conduire en sûreté au point où on veut aller. On lui dit « Je veux aller à tel endroit. Donnez-moi votre anaya et servez-moi de zetet. » L'anaya est la protection, le zetet, c'est le protecteur. Il vous répond « Très volontiers, c'est temps. » On marchande d'une bonne heure, finalement on convient du prix. On lui remet la somme dite, moyennant quoi il vous accompagne lui-même ou vous fait accompagner par un de ses parents ou de ses serviteurs jusqu'au point désigné. C'est la seule manière de voyager dans les tribus berbères et kabyles. Sans cette précaution, les gens même de l'endroit que vous quittez couraient après vous pour vous piller à un quart d'heure de la ville ou du village d'où vous sortez. Ce zétet est la vraie chose coûteuse dans notre voyage. Il se paye plus ou moins cher suivant qu'on doit traverser des tribus plus ou moins dangereuses. Fin de citation. Après avoir fait de Fès les excursions de Taza et de Sefrou, l'explorateur gagne Meknès, puis Bou el-Djad, où il arrive le 6 septembre. Là, le rabbin Joseph Aleman est l'objet d'égards singuliers et qu'il juge inquiétants de la part de Sidi Ben Daoud, grand personnage musulman de la localité. Quelque indice avait dû faire soupçonner l'identité réelle de l'explorateur. De fait, après de savants travaux d'approche, Sidi Idriss, petit-fils de Sidi Ben Daoud, découvre à Foucault son désir de se rendre à Alger et de là sur le continent des chrétiens. Il lui démontre sa sincérité en le faisant recommander aux Juifs du Sud et en lui remettant une lettre adressée au ministre de France à Tanger, s'engageant à accueillir et protéger tout Français dans sa ville et se déclarant prêt à venir l'assurer de sa bonne volonté envers la France. Dès lors, Sidi Idriss s'étant mis entre les mains de Foucault, ce dernier lui dit sans restriction qui il était et ce qu'il venait faire. La fidélité du Marocain s'en accroît avec son regret de n'avoir pas su la vérité plus tôt. Je cite « J'aurais travaillé chez lui, dessiné, fait mes observations à mon aise. Si je voulais retarder mon départ, il me conduirait visiter les koubas et les mosquées, mettrait à ma disposition la bibliothèque de la Zaouïa, riche en ouvrages historiques. » Le 17 septembre, Sidi Idriss, Mardoché et moi quittions Bou el-Djad. Le 20, nous arrivions à Kba Benil Melal. Le 23, Sidi Idriss nous faisait ses adieux. Je ne puis dire ce qu'il fut pour moi pendant les jours où nous voyageâmes ensemble. Durant les marches, il plaçait sa monture près de la mienne et me donnait des explications sur tout ce que nous parcourions, rencontrions, apercevions. Voulais-je dessiner ? Il s'arrêtait. De son propre mouvement, il choisit toujours les chemins les plus intéressants et non les plus courts. Nous arrêtions-nous dans un lieu ? Il me prenait par la main et me conduisait voir toutes les choses curieuses. Il faisait plus. Comme la demeure où il recevait l'hospitalité se remplissait dès son arrivée d'une foule venue lui baiser la main, ce grand marabout cachait dans ses larges vêtements une partie de mes instruments pendant que je portais l'autre et me menait dans un lieu écarté faire mes observations. Là, il montait la garde auprès de moi pour empêcher qu'on me surprît. Sidi Idriss se promet d'aller me voir à Alger et en France, m'engage à retourner plus tard à Bou el-Djad. Il me recommande la lettre qu'il m'a confiée. Si le sultan en avait connaissance, il me ferait couper la langue et les mains. Que ce pays serait riche si les Français le gouvernaient, me dit sans cesse mon compagnon en contemplant les fertiles plaines qui s'étendent à nos pieds. Si les Français viennent ici, me feront-ils caïd, ajoute-t-il une fois. La croyance à une prochaine invasion des Français fut la cause de l'accueil que je trouvais à Bou el-Djad. Les marabouts me reçurent bien parce qu'ils me prirent pour un espion. La domination française représente pour les grands seigneurs, les groupes opprimés par le sultan ou par de puissants voisins, un accroissement de richesse, la paix, la sécurité. Fin de citation. Les voyageurs descendent sur le Maroc saharien par Tansida et Tisint. Charles de Foucault s'arrête à Tisint 2 jours seulement. Il y est l'objet de la plus vive curiosité. Je cite « Tous les Hadj, familiers avec les choses et les gens des pays lointains, voulurent me voir. Une fois de plus, je reconnus les excellents effets du pèlerinage de la Mecque. Pour le seul fait que je venais d'Algérie où ils avaient été bien reçus, tous me firent le meilleur accueil. Plusieurs, je le sus depuis, se doutèrent que j'étais chrétien. Ils n'en dirent mot, comprenant mieux que moi peut-être les dangers où leur discours pourrait me jeter. » Fin de citation. Au retour de deux explorations encore plus méridionales, à Madère et à Akka, Foucault forme le projet de regagner l'Algérie en traversant à rebours ce rif dont l'accès par l'ouest lui a été au départ interdit. Il lui faut pour cela chercher la protection d'un personnage de marque, Sidi Abd Allah de Mrimima. Mais là, le bruit se répand que l'étranger est riche. Deux bandes de pillards s'embusquent dans la montagne. Le Hadj lui donne une escorte qui lui permet de revenir à Tisint. Charles de Foucault fait le compte des ressources qui lui restent, reconnaît qu'il lui est impossible de donner suite à son projet de retour par le Rif sans renouveler sa provision d'argent. Il lui faut pour cela se diriger vers la côte atlantique. Il trouvera des Européens à Mogador, où il arrive le 28 janvier 1884, ayant laissé à Tisint son compagnon Mardochée. Il se rend au consulat de France où un secrétaire, toisant ce piéton crasseux et vêtu de loques, qui se dit vicomte de Foucault, le reçoit mal, lui donne pourtant de quoi se laver, et regardant par le trou de la serrure pendant que le visiteur fait sa toilette, constate avec stupeur que ce vagabond est porteur d'une quantité d'instruments de physique cachés dans les poches ou les plis des vêtements, l'un après l'autre déposés au sol. « Après tout, se dit-il, je puis me tromper, il peut dire vrai. » Aussitôt, il va prévenir son chef. Le vicomte de Foucault est introduit auprès de M. Montel, chancelier du consulat. La première question qu'il pose est celle-ci. « Avez-vous reçu les lettres que j'ai adressées ici pour ma famille ?» Hélas, de toutes les lettres qu'il a écrites, depuis 8 mois, pas une n'est parvenue encore. Il écrit donc sans plus tarder à sa sœur Marie, lui disant d'abord qu'il n'a jamais été une minute malade, qu'il n'a jamais couru le moindre danger. Cette assertion n'était pas d'une parfaite exactitude. Il ajoute que 4000 francs sur les 6000 qu'il avait à sa disposition pour le voyage ont été dépensés et qu'il a laissé en réserve 2000 francs qu'il vient maintenant chercher. Je cite. « En partant, je te disais, je resterai un an. Au fond du cœur, je croyais rester au plus 6 mois. Je ne te disais le double que pour que tu ne t'inquiètes pas au cas où mon absence se prolongerait. Et voici que la parole que je te disais se trouve être la vraie. Mon voyage aura duré bien près d'un an. Voici 8 mois que je suis parti. Je vais passer ici 1 mois environ à attendre de tes nouvelles et de l'argent, puis je repartirai pour le sud et je retournerai en Algérie, s'il plaît à Dieu, par le chemin suivant. Mesguita, Dadès, Todra, Ferkla, Kabi Eshoifra, Cour de l'Oued Mlouya, Debdou, Oudja, d'où je rentrerai au pays français par l'Alamarnia. Il me faudra près de 2 mois et demi pour tout cela. Quel bonheur, ma bonne Mimi, aussitôt ma rentrée en Algérie, de prendre le paquebot et de courir auprès de toi. » Fin de citation. L'argent reçu, Foucault, avec le Hadj Bourim, qui l'accompagnait depuis Tisint, repart le 14 mai 1884 par la même route jusqu'à Agadir, mais en remontant la vallée du Sousse, alors que la piste qu'il avait suivie à l'aller traversait le petit Atlas très au sud. À la fin du mois, les voyageurs arrivent à Tisint, d'où, avec Mardochée, Charles de Foucault reprenait le chemin du nord-est, parallèlement à la chaîne de l'Atlas, vers la vallée de Moulouya et de Debdou, premier point faisant un commerce régulier avec l'Algérie. Le voyageur, qui n'avait plus un centime, mais se trouvait à 4 journées de marche de la province d'Oran, se procurait, en vendant ses mules, de quoi en louer d'autres, et arrivait le 23 mai en terre française, à l'Alamarnia, où il se séparait de Mardochée. Un an après, le 24 avril 1885, on lisait dans la Société de géographie de Paris un rapport de Duverrier sur la reconnaissance au Maroc, dont il avait étudié le manuscrit. Je cite. « En 11 mois, du 20 juin 1883 au 23 mai 1884, un seul homme, le vicomte de Foucault, a doublé pour le moins la longueur des itinéraires soigneusement levés au Maroc. Il a repris en les perfectionnant 689 km des travaux de ses devanciers et il y a ajouté 2250 km nouveaux. Pour ce qui est de la géographie astronomique, il a déterminé 45 longitudes et 40 latitudes, et là où nous ne possédions que des altitudes se chiffrant par quelques dizaines, il nous en apporte 3000. C'est vraiment, vous le comprenez, une ère nouvelle qui s'ouvre grâce à Monsieur de Foucault. Et on ne sait ce qu'il faut le plus admirer, ou de ses résultats si beaux et si utiles, ou du dévouement, du courage et de l'abnégation ascétique grâce auxquels ce jeune officier français les a obtenus. Fin de citation. On lit d'autre part dans le compte-rendu du congrès de géographie d'Oran en avril 1902 ces lignes d'un géographe anglais, M. Budgett Meeking, concernant la reconnaissance au Maroc. Je cite « C'est une réelle satisfaction que d'avoir entre les mains ces magnifiques volumes qui relatent le plus important et le plus remarquable voyage qu'un Européen ait entrepris au Maroc depuis un siècle ou plus. Aucun voyageur moderne n'a approché de M. de Foucault au double point de vue de la précision des observations et de la préparation même du voyage. Auprès de l'œuvre accomplie par lui, les tentatives des autres voyageurs n'ont été que des jeux d'enfants. » Fin de citation. Ajoutons que si les 8 mois de campagne contre Bou Amana avaient bien changé le lieutenant de Foucault, cette exploration au Maroc compléta sa transformation morale. Rien dans son passé, en effet, n'annonçait la maîtrise de soi que révèle un effort continu et tenace pour supporter un travail soutenu, un régime austère, une apparence méprisable et pour faire preuve d'une telle puissance de volonté dans une solitude morale absolue. Ces hautes qualités vont constituer maintenant la solide fondation sur laquelle s'édifiera la vie d'un homme auquel tant de ses contemporains rendent, avant même que l'Église n'ait consacré leur dévotion, les hommages qu'elle réserve aux saints. Chapitre 3. Début dans la vie religieuse. Après l'extraordinaire voyage d'exploration au Maroc que je viens de résumer à grands traits, la voie du désert s'élève de nouveau. Une volonté supérieure et l'attrait de la solitude domine Charles de Foucault. Après quelques mois en Algérie et en France, il reprend la route du sud algérien à l'automne 1885. Il visite, sans but apparent, ni sans doute bien défini, l'immense territoire déjà saharien, jalonné par Gardaïa, El Goléa, Ouargla, Tougourt et Gabès. Ce sont des pays où il faut voyager bien des jours et dormir bien des nuits avant d'apercevoir, pâlie par la lumière aveuglante, la tache verte d'une palmeraie. Ce fut aussi un pays où son âme, éprise de la solitude, se fiançait avec elle. Les quelques mois qui suivirent sont au contraire pour Foucault comme une reprise en vue d'un adieu de la vie de société. Sa famille, loin de laquelle il vient de vivre longtemps, l'accueille intelligemment, délicieusement. Rien que de la joie, aucun prêche, aucun reproche, aucun souhait exprimé. On le fête, on est fier de lui. Il voit la société la plus choisie, la plus sérieuse de Paris. Des hommes que leur passage au pouvoir a rendus fameux et n'a pas compromis, causent devant lui des affaires religieuses et des affaires politiques de la France. Ils sont chrétiens et ne font pas mystère de leur foi. Charles les retrouve chaque semaine. De douces influences féminines l'enveloppent. Il vit dans l'intimité de parentes qui lui rappellent sa mère et dont il reçoit, sans qu'elles y songent même, un perpétuel exemple d'esprit, de grâce, de gaieté saine et de piété. C'est la comtesse Armande de Foucault, mère de Louis de Foucault, le futur attaché militaire à Berlin. C'est Madame Moitessier, née Inès de Foucault, tante de Charles. Louis Buffet, neveu de son mari, qui avait été ministre à 30 ans. Aimé Buffet, son frère. Estancelin, le duc de Breuil. La vie de Charles de Foucault à cette époque se partage entre les conversations familiales et mondaines et le travail. Il reste enfermé tout le jour dans son appartement orné de souvenirs d'Algérie et du Maroc où il n'y avait aucun lit, car il couchait sur un tapis, enveloppé dans un burnous. Il y rédige le livre sévère et magnifique qui allait répandre son nom. Les documents rapportés par lui deviennent de la science et de la vie. Mais la pensée de l'officier explorateur se portait à nouveau vers les lointains horizons qui le hantaient, en même temps qu'une nouvelle préoccupation le troublait. Il avait été remué profondément durant ses séjours dans le Nord africain par la perpétuelle invocation à Dieu qui s'élevait autour de lui. Ses appels à la prière, ces hommes prosternés 5 fois le jour vers l'Orient, ce nom d'Allah sans cesse répété dans les conversations ou les écrits, tout l'appareil religieux de la vie musulmane l'avait amené à se dire, je cite, « Et moi qui suis sans religion ?» Fin de citation. Car les Juifs aussi priaient, et le même Dieu que les Arabes ou que les Marocains. À son retour, il avait même dit à quelques-uns de ses amis « J'ai songé à me faire musulman ». Propos de sensibilité que la raison n'avait pas ratifié. Au premier examen, il lui était apparu, comme il en a fait la confidence à l'un de ses intimes amis, que la religion de Mahomet ne pouvait être la véritable, étant trop matérielle. Mais l'inquiétude demeurait, bénie soit-elle, car elle est la preuve d'une supériorité chez celui qui l'éprouve, un grand événement dans l'ordre de la grâce, le signe bienheureux qu'une âme va retrouver la route. Il manquait à ce jeune homme, né dans le catholicisme, de bien connaître cette religion divine, magnifique et solide, et d'en avoir au moins deviné la transcendance pour revenir à elle sans hésitation, au moment où la tyrannie de la matière lui pesait par trop. Il était triste en effet, au fond de son cœur d'une tristesse ancienne. Il avait eu beau vivre dans le plaisir, elle n'avait fait que s'accroître. Elle l'avait tenu, selon l'aveu qu'il en a écrit, muet et accablé pendant ce qu'on appelle les fêtes. Depuis lors, elle n'avait été dissipée ni par les sciences humaines, ni par l'action, ni par le succès et la réputation. Aujourd'hui, sans doute, il s'était soumis à une discipline de travail et par là, il se sentait meilleur que dans le passé, mais non point allégé de ses fautes, non point tel qu'il aurait dû être, bien loin moralement de ces êtres chers qu'il voyait vivre dans sa famille unie et heureuse. Il lisait beaucoup. Mais une grande lâcheté secrète est en nous lorsqu'il s'agit de reprendre une règle de vie que nous savons sévère et réprimante. Nous cherchons l'à peu près pour ne pas en venir à l'idéal de perfection, et la nature frémissante nous fait demander conseil aux hommes plutôt qu'à Dieu, parce que nous savons que Dieu est exigeant. C'est ainsi que Charles de Foucault, aux heures où cessait le travail de rédaction de la Reconnaissance au Maroc, ouvrait les livres des philosophes païens et les interrogeait. Les réponses lui semblaient pauvres. La philosophie des anciens temps n'avait rien purifié, rien adouci, rien consolé. La seule inquiétude de ces choses est déjà une prière, et Dieu l'écoutait. Quelques pages d'un livre chrétien qu'il avait ouvert après tant d'autres, dans un moment d'angoisse, j'ignore quel était ce livre, commencèrent d'éclairer cet incroyant. Et voici que par hasard, un soir, chez sa tante, Madame Boitessier, Charles rencontra l'abbé Huvelin, qui était lié depuis longtemps avec plusieurs personnes de la famille de Foucault. C'était un ancien normalien, très humble, très simple, très pieux, qui avait, avec une très médiocre santé, un esprit prompt et un cœur très sensible. Vicaire à Saint-Augustin, il avait des relations innombrables, une terrible clientèle de pénitents et la réputation d'un saint homme. Sa pitié pour les pécheurs, on peut dire sa tendresse, touchait les plus indifférents. Il les voulait meilleurs et pensait pour eux à l'heure définitive où ils seraient jugés, condamnés, malheureux, sans espoir de mourir, car la mort n'existe pas même un instant. Il n'y a que deux vies. Le jour où il rencontre Charles de Foucault, l'abbé Huvelin, qui était son aîné de 20 ans, fait grande impression sur celui qui devait lui ressembler un jour. Nul ne sait ce qu'ils se dirent. Ces deux hommes peuvent n'avoir échangé que des phrases banales, s'être salués seulement, puis regarder l'un l'autre, 5 ou 6 fois dans la soirée. Cela suffit. Ils se sont reconnus. Ils s'attendaient. Dans leur cœur, ils nommeront désormais cette rencontre un grand événement. L'un a pensé « Vous êtes la religion ». L'autre « Mon frère qui est malheureux, je ne suis qu'un pauvre homme, mais mon Dieu est très doux et il cherche votre âme pour la sauver. Ils ne s'oublieront pas. » Ils ne se revirent pas tout de suite, mais dans l'âme de Charles, la grâce montait sa marée. On ne sait d'abord d'où elle vient. Elle est promise aux hommes de bonne volonté, ou plutôt, elle leur est déjà donnée, et leur bonne volonté même est son œuvre. Au moment qu'elle semblait loin, elle a déjà couvert les fonds vaseux, elle est fraîche. Elle amène ses oiseaux avec elle, et ses vagues qui déferlent l'une après l'autre, disant toutes, je cite, « Il faut croire, être pur, être joyeux de la grande joie divine, et recevoir la lumière sur les eaux vivantes. » Fin de citation. Cet obscur mouvement, ce désir d'illumination, il les sentait en lui de plus en plus puissants. On le voyait à présent entrer dans les églises, entre deux courses ou à la tombée de la nuit. Il s'asseyait loin de l'autel, ne comprenant ni ce qui lui l'avait attiré là, ni ce qui l'y retenait. Et il disait, non pas ses prières d'autrefois, mais celles-ci qui m'ont droit au paradis. « Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître. » Un soir d'octobre, dans une de ces conversations familiales où l'esprit et le cœur parlent librement et sans chercher la route, les enfants jouant autour des tables avant d'aller se coucher, une de ses cousines dit à Charles « Il paraît que l'abbé Huvelin ne reprendra pas ses conférences, je le regrette bien. »« Moi aussi, » répondit Charles, « car je comptais les suivre. » La réponse ne fut pas relevée. Quelques jours plus tard, il dit gravement à cette même cousine « Vous êtes heureuse de croire, je cherche la lumière et je ne la trouve pas. » Entre le 27 et le 30 octobre, le lendemain de cette confidence, l'abbé Huvelin vit entrer dans son confessionnal à Saint-Augustin un jeune homme qui ne s'agenouilla pas, qui se pencha seulement et dit « Monsieur l'abbé, je n'ai pas la foi, je viens vous demander de m'instruire. » Monsieur Huvelin le regarda. « Mettez-vous à genoux, confessez-vous à Dieu, vous croirez. » « Mais je ne suis pas venu pour cela. Confessez-vous. » Celui qui voulait croire sentit que le pardon était pour lui la condition de la lumière. Il s'agenouilla et confessa toute sa vie. Quand il vit se relever le pénitent absous, l'abbé reprit. « Vous êtes à jeun ? » ?»« Oui. » »« Allez communier. » Et Charles de Foucault s'approcha aussitôt de la table sainte et fit sa seconde première communion. De sa conversion, il ne parla point. Ce fut à certains actes qu'on s'aperçut, et peu à peu, que le fond de l'âme était changé. À la fin de 1887 et au début de 1888, les ouvrages du vicomte de Foucault, « Itinéraire au Maroc » et « Reconnaissance au Maroc » paraissaient en librairie. Le succès, ainsi que je l'ai dit, en fut très grand, dans le monde restreint des géographes, des savants et des coloniaux, soit de France, soit des pays étrangers. On célèbre de tous côtés le jeune explorateur, sa renommée se répand, les lettres de félicitations affluent rue de Miroménil. Des amis montent les étages et viennent demander, chacun rappelant ses titres, au souvenir du glorieux camarade. « Eh bien, mon vieux, en voilà un succès, bien légitime d'ailleurs. En as-tu couru des dangers que tu ne racontes pas ? Où vas-tu aller maintenant ? Car tu dois, toi-même, des explorations nouvelles. » L'autre, on le sait déjà, n'était pas de ceux qui discutent leurs projets en public. les méditer avec de rares initiés lui a toujours semblé meilleur. Et la conclusion, c'est que sans renier la science, l'étude des mœurs et des langues inconnues, il exercera avant tout pour le bien des âmes ses qualités de courage, de volonté, sa faculté extraordinaire d'endurance et son esprit de charité. Il se préparera à cette mission par un voyage en Terre Sainte. En novembre 1888, il s'embarque à Marseille. Au milieu de décembre, il est à Jérusalem. Qu'il trouve couverte de neige, il s'attarde à parcourir les rues, à visiter les églises, à monter et descendre la pente du mont des Oliviers. Il passe Noël à Bethléem, puis fait une grande excursion en Galilée à cheval, accompagné d'un guide qui monte lui-même un cheval de bât. Dans ses lettres, il montre une dévotion vive pour Nazareth. Après avoir quitté cette ville, il y revient. Là, plus tendrement qu'ailleurs, il médite. Et si l'on veut connaître le thème principal de cette méditation, je puis l'indiquer. Cette ville blanche aux rues escapées et tournantes sur les flancs du Nebisain a touché le cœur pénitent de Charles de Foucault. Elle lui inspire un amour qui ne s'éteindra plus pour la vie cachée, l'obéissance, l'humble condition volontaire. Elle lui répète le mot magnifique qu'avait dit l'abbé Huvelin, je cite, « Notre Seigneur a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. » Fin de citation. Je crois pouvoir affirmer que tout le reste de la vie de Foucault a été travaillé et modelé par le souvenir de Nazareth. On le vit clairement. Dès que le voyageur fut rentré à Paris au début de mars 1889, c'est l'année des résolutions ou en style de spiritualité de l'élection. Que va-t-il faire? Depuis sa conversion, il lisait encore plus qu'auparavant, mais d'autres livres, et ses lectures le faisaient pénétrer dans ce monde de la doctrine, de la morale et de l'histoire religieuse, par quoi tout le reste est illuminé. Il s'émerveillait de voir combien la vérité est simple et combien raisonnable. Il s'étonnait qu'il eût pu être troublé autrefois, jusqu'à douter de la religion ou jusqu'à la rejeter, par des objections depuis si longtemps résolues et faciles à résoudre. Il apprenait la première des sciences, celle d'où dépend la conduite de la vie. Selon le conseil de l'abbé Huvelin, il assistait chaque matin à la messe et la fréquente communion du début était devenue le pain quotidien. Depuis le moment même de sa conversion, il s'était senti appelé à la vie religieuse. Mais dans quelle voie? Par des retraites successives, il s'approche pendant l'année 1889 de la règle vivante des trois grands ordres, bénédictins, trappistes, jésuites, et se décide à entrer au noviciat à la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche, en demandant d'être envoyé après quelques mois à la Trappe d'Agbès, en Syrie. Les plus proches parents sont seuls avertis de la grande décision. Les jours sont désormais comptés. Charles part le 11 décembre pour Dijon. Il y passe près de sa sœur et de Monsieur de Blic une semaine, la dernière qu'il leur pourra donner avant la clôture, la solitude et le silence. Puis il revient à Paris pour régler quelques affaires, notamment l'abandon qu'il fait de ses biens à sa sœur. Il s'en ira pauvre. Le monde ne le verra plus. Quand Charles de Foucault se présente au monastère de Notre-Dame-des-Neiges et demande à être admis parmi les novices, dont Martin, l'abbé de cette communauté de travailleurs silencieux, l'interrogea. « Que savez-vous faire ? » ?»«
Pas grand-chose. » »«
Lire ? » ?»«
Un petit peu. »
L'abbé vit que ce lieutenant de chasseurs d'Afrique était peu causant et modeste. Il le pria de balayer un peu pour voir. Il s'aperçut au premier coup de balai que le postulant n'avait pas été exercé. On compléterait son éducation. Et c'est ainsi que le vicomte de Foucault, Charles, entra au noviciat de la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges pour devenir frère Marie Albéric. Le souvenir qu'il a laissé parmi les frères de ce grand ordre est celui d'un religieux serviable, pieux, presque excessif dans son austérité, mais pondéré dans son jugement. Un des moines de là-bas, faucheur de blé, toucheur de bœufs, que j'interrogeais me répondit ce mot magnifique, « Monsieur, je lui parlais comme à un paysan ».
Et il ajouta, « Moi, je l'ai vu tous les jours. Il n'a jamais refusé un service à personne. Il était beau, comme un second François d'Assise. » Le régime de la trappe éprouve plus d'un novice solidement bâti. Frère Albéric avait une santé de fer et une volonté de même métal. Il a maintes fois déclaré que ni le jeûne, ni l'éveil, ni le travail ne l'avaient jamais incommodé. La seule chose qui lui fut difficile, c'est l'obéissance. Et là encore, nous saisissons un trait de cette nature fière, impétueuse, faite pour le commandement, habituée à l'exercer et qui ne pliait que sous la grâce. Il prit l'habit des trappistes le 26 janvier 1890, à l'âge de 32 ans. Quelques extraits de ses lettres donneront une idée de son existence et de l'intensité de sa vie religieuse dès cette date. Je cite « Je voulais entrer dans la vie religieuse pour tenir compagnie à notre Seigneur, autant que possible, dans ses peines. Mon âme va moins mal que je ne m'y attendais. Le bon Dieu me fait trouver dans la solitude et le silence une consolation sur laquelle je ne comptais pas. Je suis constamment, absolument constamment avec lui et avec ceux que j'aime. Grâce à la variété des travaux et des exercices, je n'ai pas senti que j'avais faim avant de me mettre à table. C'est vous dire que le côté matériel de la vie ne m'a pas coûté l'ombre d'un sacrifice. Du régime du carême, un seul repas par jour à 4h30, je ne puis dire qu'une chose, je l'ai trouvé agréable et commode. Aucun bruit du dehors ne nous atteint, c'est la solitude et le silence avec le bon Dieu. Le temps se partage en prière, lecture, rapprochant de Dieu, travail manuel fait en imitant de lui et en union avec lui. Cela remplit tous les jours, sauf les dimanches et fêtes où le travail cesse. Notre Seigneur Jésus me tient dans sa main, me mettant dans sa paix, écartant de moi le trouble, le chassant, chassant la tristesse dès qu'elle veut approcher. Cet état est trop inattendu pour que je puisse l'attribuer à un autre qu'à lui. Qu'est-ce que cette paix, cette consolation? Ce n'est rien d'extraordinaire, c'est une union de tous les instants dans la prière, la lecture, le travail, dans tout. Avec notre Seigneur, avec la très sainte Vierge, avec les saints qui l'entouraient dans sa vie. Les offices, la sainte messe, la prière où ma sécheresse m'était si pénible, me sont, malgré les distractions innombrables dont je suis coupable, très doux. Le travail manuel est une consolation par la ressemblance avec notre Seigneur et une méditation continuelle. Cela devrait être « je suis bien dissipé ». Fin de citation. Dès le début, frère Albéric avait demandé qu'on l'envoyât dans le plus pauvre et le plus lointain monastère d'Asie mineure. Désir de la solitude absolue, désir d'être celui qui n'est plus qu'un nom, souvenir des horizons qu'il avait aimés, sans doute. Mais d'autres attraits conduisaient vers la trappe d'Agbès, cet homme décidé à mater son corps, longtemps maître, et à faire pénitence. Il allait vers l'Orient pour y être plus pauvre encore, pour s'y sentir plus près de la Terre Sainte où le Fils de Dieu avait souffert et travaillé. Il allait, mu par une compassion qui devait l'entraîner bien plus loin encore pour les peuples enfoncés dans l'erreur. Le 27 juin 1890, Charles de Foucault s'embarque à Marseille pour rejoindre Alexandrette et par la route d'Alep, un très pauvre monastère situé au fond d'une haute vallée entourée de montagnes couvertes de forêts de pins parasols. Les constructions sont sommaires. Murs en clayonnage et terre grasse, couverture en planches ou en chaume, la pierre étant réservée pour la chapelle, la salle capitulaire et les écuries. La clôture est faite d'épines sèches et de piquets. La terre est bien travaillée par les moines, mais si les récoltes de céréales, de coton et de vin sont belles, la vente en est difficile en raison de l'éloignement des marchés. C'est là que frère Albéric continue son noviciat de trappiste. Passant 2 ou 3 jours par semaine à laver, le reste à débarrasser le sol des pierres qui l'encombrent, vivant avec ses frères au milieu d'un mélange de Kurdes, de Syriens, de Turcs, d'Arméniens, qui ferait, écrit-il, je cite, un peuple brave, laborieux et honnête s'ils étaient instruits, gouvernés, convertis surtout. Pour le moment, ils sont pressurés, sans merci, profondément ignorants, et la religion musulmane a sur leurs mœurs sa triste influence. Notre région est un coin de brigands. C'est à nous à faire l'avenir de ces peuples. L'avenir, le seul vrai avenir, c'est la vie éternelle. Cette vie n'est que la courte épreuve qui prépare l'autre. La conversion de ces peuples dépend de Dieu, d'eux et de nous, chrétiens. Dieu donne toujours abondamment la grâce. Eux sont libres de recevoir ou de ne pas recevoir la foi. La prédication dans les pays musulmans est difficile, mais les missionnaires de tant de siècles passés ont vaincu bien d'autres difficultés. C'est à nous à être les successeurs des premiers apôtres, des premiers évangélistes. La parole est beaucoup, mais l'exemple, l'amour, la prière sont mille fois plus. Donnons-leur l'exemple d'une vie parfaite, d'une vie supérieure et divine. Il écrit à sa sœur en 1891, je cite, « Mon âme est dans une paix profonde qui s'affermit chaque jour et qui est un pur don de Dieu. C'est une paix qui augmente la foi, qui appelle la reconnaissance. Voici un an que je suis à la trappe. Je ne puis que me confondre devant la bonté infinie de notre Seigneur Jésus qui m'y a appelé, conduit et comblé de tant de grâces. Dans un an, je ferai profession. Il tarde à mon cœur d'être lié par des vœux, mais je le suis déjà par tous mes désirs. » Fin de citation. La cérémonie de la profession religieuse pour frère Albéric a lieu le 2 février 1892. Le nouveau professe écrit le lendemain, je cite, « Voici que je ne m'appartiens plus en quoi que ce soit. Je suis dans un état que je n'ai jamais éprouvé, si ce n'est un peu à mon retour de Jérusalem. C'est un besoin de recueillement, de silence, d'être au pied du bon Dieu. » Le « N'est-ce donc rien d'être tout à Dieu ?» de Sainte Thérèse fait les frais de l'oraison. Fin de citation. Autour de lui, l'admiration se manifeste pour sa sainteté. Ses supérieurs voudraient seulement qu'il fît ses études théologiques afin qu'il puisse être un jour promu au sacerdoce. Il ne s'en ouvre toutefois pas directement à lui, sentant bien que frère Albéric ne souhaite rien d'autre que la vie commune des frères qui sont fendeurs de bûches, sarcleurs dans les blés en herbe, moissonneurs, vendangeurs selon les saisons. Il confie son inquiétude à l'abbé Huvelin et d'après la réponse, prépare sa défense contre les dignités et les charges. Je cite, « Si on me parle d'études, j'exposerai que j'ai un goût très vif pour demeurer jusqu'au cou dans le blé et dans le bois, et une répugnance extrême pour tout ce qui tendrait à m'éloigner de cette dernière place que je suis venu chercher, de cette abjection dans laquelle je désire m'enfoncer toujours plus à la suite de notre Seigneur. Et puis en fin de compte, j'obéirai. » Fin de citation. L'ordre de commencer les études théologiques devait venir quelques mois après la profession. Elle l'intéresse, certes, mais ne valent pas, écrit-il en mai 1893, la pratique de la pauvreté, de l'abjection, de la mortification, de l'imitation de notre Seigneur que donne le travail manuel. À cette époque de sa vie, Charles de Foucault est inquiet. Les tentations contre l'obéissance exercent la vertu encore jeune du religieux. L'esprit de défiance essaie de le troubler et lui représente que ses supérieurs se trompent, assurément, et ne connaissent pas la manière de conduire chacun. Il fait taire cette voix tentatrice, mais de l'autre, celle qui disait « va plus loin ». Il l'entend toujours. Très résolu à ne pas sortir de l'obéissance, il attend sans savoir où elle veut le mener, un signe certain de cette volonté qui le tire dehors. Quelques lignes d'une lettre intime laissent clairement apercevoir cet extraordinaire attrait qui le faisait souhaiter un ordre encore plus sévère que le plus sévère des ordres religieux. Il annonçait à un ami le 27 juin 1893 que les trappistes de Notre-Dame du Sacré-Cœur avaient reçu les nouvelles constitutions de l'ordre de Cîteaux. Je cite « C'est très pieux, disait-il, très austère, très bien de toute manière. Et pourtant, soit dit une fois entre vous et moi, ce n'est pas toute la pauvreté que je voudrais, ce n'est pas l'abjection que j'aurais rêvé. Mes désirs de ce côté ne sont pas satisfaits. » Fin de citation. Il y avait là une espèce d'excès, de singularité qui ne pouvait manquer d'inquiéter les esprits les plus instruits et expérimentés dans la direction des âmes. Car l'idéal de la pauvreté, de l'humilité, de la mortification, de la charité a été atteint par un grand nombre de saints religieux et religieuses dans tous les ordres reconnus sous des règles diverses. Depuis des siècles, toute vie chrétienne y tend, même dans le monde. Les obstacles sont en nous, bien plus que dans les circonstances extérieures et dans l'appareil de la vie. Il se trompait sur les motifs qui le poussaient hors de la trappe. Il concevait un projet qu'il ne devait jamais accomplir, celui de grouper autour de lui quelques âmes avec lesquelles on put former un commencement de petite congrégation, répondant aux rêves d'un esprit que ne cesse de hanter la vision de Nazareth. Quel serait le but de cette compagnie nouvelle ? Quelle en serait la règle essentielle ? Dès ce moment, frère Marie-Albéric l'expose ainsi. Je cite « Mener aussi exactement que possible la vie de notre Seigneur, vivant uniquement du travail des mains, sans accepter aucun don, ni spontané, ni quêté, et suivant à la lettre tous ses conseils, ne possédant rien, donnant à quiconque demande, ne réclamant rien, se privant le plus possible. » Ajouter à ce travail beaucoup de prières, ne former que des petits groupes, se répandre surtout dans les pays infidèles ou abandonnés où il serait doux d'augmenter l'amour et les serviteurs de notre Seigneur Jésus. Fin de citation. Le trappiste qui, ayant prononcé ses premiers vœux, crut être appelé à sortir de l'ordre pour des motifs aussi exceptionnels, demande à ses supérieurs et à son directeur, l'abbé Huvelin, de se prononcer et de décider. Dont Polycarpe, maître des novices, ancien abbé Notre-Dame-des-Neiges, répond d'abord simplement, je cite, « Attendez en paix, car le bon Dieu, si cela vient de lui, saura bien faire naître l'occasion. » Fin de citation. L'abbé Huvelin, sans garder le moindre espoir de maintenir à la trappe cet homme extrême en ses désirs, agité dans sa recherche de la perfection, essaie de retarder le dénouement de la crise intérieure. Son conseil daté du 29 janvier 1894 dénote une rare psychologie dans l'art de conduire les âmes vers le bien. Je cite, 29 janvier 1894. Continuez vos études de théologie, au moins jusqu'au diaconat. Vous appliquez aux vertus intérieures et surtout à l'anéantissement. Pour les vertus extérieures, les pratiquez dans la perfection de l'obéissance à la règle et à vos supérieurs. Pour le reste, on verra plus tard. Au surplus, vous n'êtes pas fait, pas du tout fait, pour conduire les autres. » Fin de citation. En attendant que ceux qui le dirigent lui prescrivent le changement plus radical qu'il désire, Charles de Foucauld demande de n'être plus un religieux de cœur, de devenir, hors de la trappe, simple familier, simple journalier dans quelque couvent. Comme cet appel vers la vie solitaire et cachée se renouvelle à tout instant, et que 5 ans ont passé depuis que le frère Albéric a prononcé ses premiers vœux, l'abbé Huvelin donne son consentement à la réalisation de ce qu'il sent être une irrésistible vocation. Je cite « Mon cher enfant, écrit-il le 15 juin 1896, je vous ai bien fait attendre ma réponse quand vous aviez si soif. Mais j'estimais que vous ne perdiez pas votre temps en étudiant la théologie, en prenant là des données sûres, larges, en préparant dans cet enseignement-là votre esprit et votre cœur pour une mysticité sûre et sans illusion. J'avais espéré, mon cher enfant, que vous trouveriez à la trappe ce que vous cherchez, que vous y trouveriez assez de pauvreté, d'humilité, d'obéissance pour pouvoir suivre notre Seigneur dans sa vie de Nazareth. Je croyais que vous auriez pu dire en y entrant « Haec requies mea in seculum seculi ». Je regrette encore que cela ne puisse être. Il y a une poussée trop profonde vers un autre idéal et vous arrivez peu à peu par la force de ce mouvement à sortir de ce cadre que vous trouvez déplacé. Je ne crois pas, en effet, que vous puissiez enrayer ce mouvement. Dites-le à vos supérieurs à la trappe. Dites simplement votre pensée. Dites à la fois votre estime profonde pour la vie que vous voyez autour de vous et le mouvement invincible qui, depuis si longtemps, quoi que vous fassiez, vous porte vers un autre idéal. Non que je pense que vous êtes appelé plus haut. Je ne vous vois pas au-dessus. Oh non. Je vois que vous vous sentez soulevé ailleurs. Je ne vous fais donc plus attendre. Montrez ma lettre. Parlez. 29 ans aujourd'hui que je suis prêtre. Que j'aurais aimé vous voir prêtre, vous. » Fin de citation. Par ailleurs, l'abbé Huvelin, à qui Charles de Foucault avait soumis la règle des communautés des petits frères de Jésus, qu'il voulait fonder, lui déclare cette règle absolument impraticable. « Elle m'a effrayé, écrit-il à son pénitent, vivez à la porte d'une communauté dans l'abjection que vous souhaitez, mais ne tracez pas de règle, je vous en supplie. » Frère Marie Albéric écrit donc au père général des Trappistes à Rome, qui lui imposait une épreuve, étudier à Rome la théologie pendant 2 ans. La réponse vraiment admirable se trouve dans une lettre à sa famille. Je cite « Je pars à Rome vers le 25 octobre 1896. Je serai avec 7 autres religieux. Nous irons assister au cours du Collège romain. Vous sentez que mes désirs ne sont nullement changés. Ils sont plus fermes que jamais. Mais j'obéis avec simplicité, avec une extrême reconnaissance et avec confiance qu'à la suite de cette longue épreuve, la volonté de Dieu se manifestera bien clairement pour nous tous qui n'avons qu'un seul désir, connaître la volonté de Dieu et la faire quelle qu'elle soit et nous y jeter de tout notre cœur et de toute notre force. » Fin de citation. Même note dans la correspondance qu'il adresse en fin 1896 à un père trappiste avec lequel il s'était lié. Je cite « Le travail manuel est nécessairement mis au second plan en ce moment parce que vous êtes comme moi dans la période d'enfance. Nous ne sommes pas encore d'âge à travailler avec Saint Joseph. Nous apprenons encore à lire avec Jésus, petit enfant, sur les genoux de la Sainte Vierge. Mais plus tard, le travail manuel humble, vil, méprisé, reprendra sa place, sa grande place. Et alors, avec la Sainte Communion, les saints livres, la prière, l'humble travail des mains, l'humiliation, la souffrance, et s'il pouvait plaire à Dieu, pour finir, la mort de Sainte Cécile et de tant d'autres, avec cela, nous aurons la vie de notre Seigneur, bien-aimé Maître Jésus. Permettez-moi, à moi qui n'ai aucun droit à vous donner l'ombre d'un conseil, à moi qui ne suis ni prêtre, ni instruit, ni rien que pécheur, de vous en donner un cependant. Il n'y a qu'une chose qui m'y autorise, c'est l'amour fraternel que j'ai pour vous en notre Seigneur. C'est de consulter en tout, pour tout, même pour les petites choses, votre directeur. Je vous le dis parce que je me suis toujours très bien trouvé de faire ainsi, et mal trouvé de faire autrement. Et je désire que vous profitiez de mon expérience. Cette habitude de demander ce qu'on doit faire, même pour les petites choses, a 1000 bons effets. Elle donne la paix, elle habitue à se vaincre. Elle fait regarder comme rien les choses de la terre. Elle fait faire une foule d'actes d'amour. Obéir, c'est aimer, c'est l'acte d'amour le plus pur, le plus parfait, le plus élevé, le plus désintéressé, le plus adoratif. Elle fait faire, dans les commencements surtout, pas mal d'actes de mortification. Cette fin de mois et le commencement du mois prochain sont graves pour moi. Le 2 février, il y aura 5 ans que j'ai fait mes premiers vœux. Au terme des constitutions, je dois à cette date faire mes vœux solennels ou quitter l'ordre. Pour rester dans l'ordre, encore 2 ans et demi sans faire mes vœux solennels, il faudrait une dispense du Saint-Siège qui ne s'accorde que pour de fortes raisons. Mon père maître ne croit pas qu'ici il y ait des motifs suffisants pour demander une dispense. Il pourrait donc se faire que je sois obligé de prendre un parti définitif d'ici à quelques jours. Cela dépendra du révérendissime père général qui arrivera demain ou après-demain. le jour où ma vocation semblera clairement connue de mon père général et de mon père maître, et qu'il leur semblera évident que le bon Dieu ne me veut pas à la trappe, du moins comme père, ils me le diront et m'engageront à me retirer, car ils sont trop consciencieux pour vouloir me retenir un seul jour quand ils voient que la volonté de Dieu est ailleurs. » Fin de citation. Il acceptait de vivre ainsi 3 années. Ses supérieurs n'eurent pas besoin d'une aussi longue épreuve pour être sûrs qu'une vertu si humble pouvait vaincre les dangers d'une vie solitaire parmi les hommes. À la perfection de son obéissance, ils reconnurent que l'appel qu'il entendait depuis les premiers temps de son entrée à la trappe n'était pas celui d'un orgueil déguisé. Le père général de l'ordre, qui était en voyage, arriva à Rome le 16 janvier 1897. Tout de suite, il se préoccupa de faire juger par les membres de son conseil le cas de frère Marie Albéric. Celui-ci ne se doutait de rien. Le père général le fait venir, lui dit que le moment était venu d'examiner quels étaient les desseins de Dieu sur son serviteur Charles de Foucault, et que si les pères, ayant prié, étudié, réfléchi, reconnaissaient que celui-ci avait une vocation exceptionnelle, hors de la règle de saint Benoît et de saint Bernard, il faudrait qu'il la suivît, sans plus tarder et de tout son cœur. Cette autorisation transformait en un séculier le frère Marie Albéric. Sa décision fit pleurer plus d'un vieux moine. L'un d'eux, l'ancien prieur de Notre-Dame d'Agbès, devenu abbé de Staouali en Algérie, écrivit même « En nous quittant, il m'a fait la plus grande peine que j'ai éprouvée dans ma vie. » En février 1897, Charles de Foucault, sur le conseil de l'abbé Huvelin, partait pour aller mener en Terre Sainte une vie cachée après avoir passé 7 ans à la trappe. Je cite « Toutes les portes me sont ouvertes pour cesser d'être religieux de cœur et descendre au rang de familier et de valet. Je crois que c'est ma vocation de descendre. Celui qui donne à chaque feuille sa place saura me mettre à la mienne. » Fin de citation.
Hosanna, figlio David, benedictus qui venit in nomine Domini. Rex Israel, Hosanna in excelsis.